Vous voulez peut-être ajouter quelque
non,
chose
non,
ou on peut
d'accord.
peut-être permettre à la salle sans tarder d'éventuellement poser des questions ou intervenir, puisque c'est finalement un rendez-vous aussi avec, avec les gens du public qui ont peut-être un point de vue plus que des questions même. Oui?
Moi, j'ai plusieurs remarques. D'abord, j'aimerais réagir par rapport aux femmes voilées dans les assemblées politiques, notamment, et savoir justement, parce qu'en soi, elles représentent l'État, et savoir justement, est-ce que là, cette frontière est valide ou pas, puisqu'en soi, oui, elles font la loi, et voilà, est-ce que c'est prévu ou pas. Savoir aussi, par rapport à la notion d'aménagement raisonnable, puisque, justement, est-ce qu'on n'entretient pas par ces aménagements raisonnables, parce que ça veut tout rien dire, finalement, qu'est-ce qui est raisonnable, qu'est-ce qui n'est pas, est-ce qu'au niveau de la cantine, ça, c'est pas dans une entreprise, et pas dans une autre, etc. Enfin, voilà, savoir un petit peu est-ce que ces aménagements raisonnables posent la question aussi. Et enfin, plus là, une remarque, j'ai l'impression que oui, effectivement, c'est un débat qu'on évite. C'est-à-dire quand on voit, par exemple, aux Pays-Bas, tout le débat, et même en Belgique, sur le père Poetard, etc., on voit les proportions que ça peut prendre, justement, parce que des gens, parfois, n'y pensent même pas, et à force de vouloir provoquer le débat sur ces questions, bah, d'un seul coup, la plupart n'y avaient même jamais pensé. Il y avait eu d'ailleurs un sondage là-dessus. Donc est-ce que c'est pas justement parce qu'on s'enferme dans une bulle et qu'on évite absolument d'avoir des débats sur certaines questions, parce qu'on a peur directement qu'on nous montre du doigt en disant qu'on est raciste, alors que non, justement, c'est pour qu'il y ait un vivre ensemble qu'il faut qu'on puisse en discuter autour de la table. Donc est-ce que c'est pas ça le problème de carence du législateur, parce qu'il a peur tout simplement que bah, d'être montré du doigt, parce que par la presse, etc., aussi, qui aime bien jouer là-dessus.
Je ne sais pas lequel de vous deux...
Mais, oui, enfin, il y a des questions qui me sont peut-être directement adressées sur les signes convictionnels dans les assemblées. Mais d'abord, il y a quand même un peu de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est un arrêt, voilà, j'essaie de le retrouver ici. Enfin, je lis la Cour, elle dit « Le critère de neutralité politique ne saurait s'appliquer à des députés de la même façon qu'à d'autres agents de l'État. » Les premiers, par définition, ne pouvant pas être politiquement neutres. En outre, dit la Cour, il serait contradictoire de soumettre l'exercice d'un mandat qui vise à représenter au sein du Parlement différentes visions de la société à la condition d'adhérer au préalable à une vision déterminée du monde. Donc, je pense que c'est assez clair. Et effectivement, si on y réfléchit bien, dans une assemblée parlementaire, ce ne sont pas seulement des opinions politiques, droite, gauche, qui doivent pouvoir s'exprimer, mais aussi des opinions religieuses, philosophiques et toutes sortes d'opinions. Voilà. Donc, personnellement, je suis tout à fait opposé à l'idée d'interdire, vous savez qu'il y a un cas à Bruxelles, mais d'interdire le port de signes convictionnels dans les assemblées. Et je pense d'ailleurs que si c'était le cas, si c'était pris, ça tomberait sous le coup de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Et je pense que la Cour européenne des droits de l'homme ne laisserait pas passer. Et il me semble que l'argumentation de la Cour est tout à fait convaincante. Sur les accommodements raisonnables. Alors d'abord, je pense qu'il ne faut pas confondre aménagement raisonnable et accommodement raisonnable. Donc aménagement, personnellement, je réserve le terme d'aménagement raisonnable aux critères handicap, c'est-à-dire à l'obligation qui est faite trouver un aménagement pour une personne à mobilité réduite, pour une personne qui a des problèmes de vue ou quoi que ce soit, ou des maladies chroniques, l'obligation de prévoir des aménagements raisonnables pour lui permettre de travailler et de vivre avec son handicap. Et vous savez que si cet aménagement raisonnable n'est pas trouvé, eh bien, c'est considéré comme de la discrimination. Hein. Et on parle bien d'un aménagement raisonnable, hein, donc la demande ne peut pas être déraisonnable, et si jamais, par hypothèse, l'employeur et l'employé handicapé ne trouvent pas une solution, qui par définition sera raisonnable, s'ils trouvent une solution, hein, s'ils trouvent un accord, eh bien, on va devant un tribunal, et c'est le tribunal qui décide. Je pense qu'il faut distinguer ça de l'accommodement raisonnable, qui est d'assouplir une norme générale pour permettre à des minorités, à des communautés, de vivre en conformité avec leurs convictions. Moi, je veux qu'on sépare les deux. Je sais bien qu'il y a tout un courant de multiculturalistes qui veulent mêler les deux pour rendre les accommodements culturels raisonnables obligatoire comme les aménagements raisonnables handicap, j'y suis opposé. J'ai toujours été opposé et j'y suis toujours opposé. Pour moi, les accommodements raisonnables en matière de culture, on avait fait faire à l'époque une étude au Centre Boyer de Chance là-dessus, c'est d'ailleurs l'Université de Bruxelles qui l'avait réalisé. Et ce que l'on voit, c'est que ces accommodements raisonnables, vous avez dit, oh, mais il y a des demandes déraisonnables. Si une demande est déraisonnable, on n'y accepte pas, c'est tout. Hein. Voilà. Et comme de toute façon, il n'est pas obligatoire de. Pour moi, l'accommodement raisonnable est plutôt une invitation à une concertation, un dialogue et à un respect. C'est-à-dire que moi, je ne trouve pas anormal de prévoir dans des cantines des repas différenciés du moment que c'est raisonnable, de prévoir des dispositions pour permettre à quelqu'un, ben, s'il veut faire une prière, mais l'autre, ce sera peut-être d'aller fumer une cigarette, etc., etc. La recommandation que nous faisions, que je faisais au centre, c'était de prendre des dispositions neutres. Ne pas dire on va faire du halal, mais de dire on va prévoir, si c'est possible, un repas végétarien. On va faire 5 minutes de pause. Tout le monde aura droit à 5 minutes de pause. On fait ce qu'on veut avec ces 5 minutes de pause. Et si certains veulent s'isoler tranquillement et prier, c'est tout à fait leur affaire, ce n'est pas le nôtre, etc., etc. Et quand on regarde les pratiques d'accommodement raisonnable, c'est parce qu'évidemment les médias regardent toujours des cas déraisonnables, hein, des questions déraisonnables, mais quand vous regardez les pratiques, il n'y a vraiment pas de quoi fouetter un chat, hein. C'est de permettre de donner un jour de congé pour permettre de fêter telle fête religieuse, enfin, etc., etc. Ce sont des choses quand même relativement élémentaires. Eh bien, ça, pour moi, est compatible avec d'éventuelles interdictions et d'éventuelles limitations de la vie religieuse. Sur le troisième point, je vais être très bref parce que je pourrais être très long. Est-ce qu'on n'est pas, si le législateur n'intervient pas, est-ce que c'est pas parce que il y a des tabous du fait d'une sorte de politiquement correct qui empêche, hein, qui ferait qu'on ait la suspicion d'être raciste et donc on n'ose pas prendre des décisions. D'abord, une chose, je pense que dans notre société, le problème fondamental, c'est pas l'antiracisme, le problème fondamental, c'est le racisme. Hein. Il y a quand même beaucoup plus de racisme que de politiquement correct antiraciste. Hein. Donc il faut quand même jamais oublier qu'il y a d'abord du racisme, il y a d'abord des discriminations dans notre société et c'est ce qui rend aussi un petit peu la question dont nous parlons compliquée, parce qu'on sait bien qu'une éventuelle interdiction va viser principalement des populations qui sont, elles, c'est vrai, des populations minorisées et discriminées. Donc je pense qu'il ne faut pas inverser. Et en plus, je pense que si le législateur a peur, c'est parce que il a peur en général de ce genre de questions, hein. C'est-à-dire que dès que c'est clivant, c'est un problème, quoi. Hein. Voilà. Et donc, je pense que la peur, elle ne vient pas tellement du politiquement correct, mais du bazar que ça risque de créer et que ça risque de faire. Voilà. Si vous entrez un peu plus dans le détail des raisons internes pour lesquelles tel ou tel parti politique ne veut pas légiférer. Du côté francophone, c'est pas très compliqué à comprendre. Hein. Vous n'avez pas beaucoup de difficultés à comprendre qu'un parti comme le Parti socialiste est très mal pris entre son aile multiculturaliste qui est assez importante à Bruxelles et son aile plus laïque en Wallonie, et que toute décision qu'il prendrait, décision politique qu'il prendrait, est une décision qui serait difficile en interne. C'est aussi vrai d'une certaine façon au CDH pour des raisons différentes. Et comme ce sont les deux partis au pouvoir actuellement à la région et communauté et Bruxelles, si on y ajoute le FDF, qui peut-être d'ailleurs n'est pas plus au clair sur la question, je n'en sais rien, en interne, vous voyez que c'est ça qui est un peu, à mon avis, surtout difficile. C'est plutôt en interne dans les partis politiques. C'est pas tellement les raisons du politiquement correct, à mon avis. Si on fait une petite analyse politologique, mais je la faisais sous le contrôle de Vincent de Cornu.
Je suis plutôt d'accord.
Une autre question, intervention, oui.
Évoquer une intervention législative éventuelle, même si le législateur en a peur, je crois que tôt ou tard on devrait y venir, peut-être pas dans les conditions de sérénité qu'il souhaite, mais enfin passons. Et le jour où on y viendra, je crois qu'on sera nécessairement confronté à un problème qui est celui de l'étendue de la liberté religieuse et d'expression telle qu'elle est garantie par des textes qui s'imposent aux législateurs. Constitution, convention, quelques autres actes internationaux encore, avec chacun leur juge. Et à ce sujet-là, dans le débat tel qu'on l'entend se dérouler sur la place publique, je trouve qu'il y a étonnamment peu d'interrogations sur l'étendue de cette liberté. Beaucoup de gens qui ont été considérés, ben oui, porter voile, bon, pour un musulman, c'est normal, c'est la liberté de religion. Alors là, il y a quand même quelque chose qui me dérange un petit peu. Que si on fait de l'histoire du droit, à l'époque où les textes qui garantissent cette liberté ont été conçus, il y a pas la Constitution, c'est 1830-1831, pour la Convention des droits de l'homme, c'est l'immédiat après-guerre, qu'est-ce qu'on vise par liberté religieuse? C'est d'abord une question strictement personnelle de religion, de votre rapport avec une divinité. C'est aussi les manifestations d'adhésion au culte qui correspond à cela, autrement dit de pouvoir aller à la messe qui se déroule dans un édifice religieux expressément conçu à cet effet. C'est aussi occasionnellement une manifestation plus publique. Je songe aux processions qui font à la fois partie des cultes et du folklore, en fait, comme ça se déroule, une fois par an, ou parfois maximum deux fois par an, dans certaines régions. Bon, et c'est essentiellement cela que l'on visait. On ne songeait pas du tout à ce que ça allait faire entrer dedans maintenant, comme la manifestation en tout temps et tout lieu d'une manifestation par le port, un signe ostensible, c'est bien que c'est essentiellement le voile qui est en cause. Et là, je trouve qu'il y a étonnamment peu d'interrogations sur le bien fondé de cette extension. Alors, j'aurais déjà fait la remarque au colloque justement sur des commandements raisonnables, on va dire, la Constitution, les gouvernements, ça évolue. Bien entendu, ça évolue. Ça, on va quand même enseigner de la Constitution de certains temps, on ne pourra pas dire le contraire. Il reste quand même qu'il faut se poser la question de l'opportunité d'accepter une évolution dans ce sens-là. Et là, je ne suis pas du tout sûr que la réponse soit évidente. Hein, qu'à partir du moment où on met l'autolatin, si on se met à rattacher à la liberté de religion tout comportement qui se revendique d'une pratique religieuse, je ne vois pas comment on empêchera le conducteur de tram musulman d'arrêter le tram, de déballer son petit tapis sur les règles du monde, de se prosterner vers la Mecque, puis après 5 minutes de dire « Monsieur, mesdames, merci, mais non, on repart ». Bon, ce qui, manifestement, ne passerait pas. Voilà, c'est la façon que je voulais faire.
Si je peux poursuivre et rebondir, mais je laisserai aussi évidemment Kevin intervenir. C'est la question des accommodements raisonnables ici qui a été évoquée avec pertinence me fait moi-même me poser la question d'un accommodement qui semble être souvent l'objet de discussions sur le terrain très concrètes et en rapport avec le port du voile, qui est le fameux bandana, c'est-à-dire l'alternative proposée parfois sur le terrain pour permettre à quelqu'un, à une femme qui se revendique de la religion musulmane de quand même trouver une solution pour ne pas avoir à se dévoiler, et certaines parties trouvent un accord sur le bandana, donc quelque chose qui ne ressemble pas à un voile mais qui le serait quand même, en tout cas qui leur permet de se couvrir les cheveux. J'aurais peut-être voulu, on pourrait discuter en tout cas de votre point de vue sur le caractère raisonnable de cet accommodement, ou est-ce que le bandana devrait aussi tomber sous l'interdiction généralisée, puisque on pourrait considérer que même si c'est un bandana et que c'est un bout de tissu pour ces femmes, il s'agit quand même d'une manifestation, d'un ersatz de manifestation de leurs convictions religieuses. Kevin, me suivre peut-être.
Deux petites questions. La première, c'est à Madame Bernemann. Oui. Vous avez dit au début de votre intervention que vous n'avez pas utilisé le terme de tolérance. Dans votre cours, je voudrais savoir pourquoi. Précisément, ce terme-là, vous avez.
Les réciprocités, le terme, on a. Justement, parce qu'on voulait l'équilibre, hein, on voulait dans chaque relation, homme-femme, amis, famille, la réciprocité est très importante, hein. Tandis que la tolérance, ça va dans un sens, hein. Dans la pratique journalière de l'école, on le met vraiment, on l'accentue dans différentes choses. Par exemple, on donne des cours complémentaires de néerlandais, mais il faut venir, il faut avoir du respect pour le professeur. Hein. Et c'est parce que à un certain moment, les professeurs avaient le sentiment d'investir tellement, hein, parce qu'on dit également il y a du racisme, mais l'investissement des professeurs dans les grandes villes, dans les élèves, c'est énorme. Hein. Et ce qu'on reçoit comme retour, le respect manque parfois, parce que ce sont des jeunes, hein, chaque jeune dans l'école. Et c'est pour ça qu'on l'a vraiment donné un nom de réciprocité, ça va dans les deux sens. Hein.
Et la deuxième question, la première était plus générale sur le débat démocratique, il faut parler sur la laïcité. Je me demande, c'est pas au-delà de la question de la laïcité, c'est pas plutôt un problème en Belgique, parce que le débat démocratique a de toute façon de moins en moins lieu, de manière générale, sur les questions de société, ça peut parler de la laïcité, ça peut aussi concerner sur les questions sur la justice, et où de plus en plus aujourd'hui on essaie d'éviter le débat démocratique pour quelques raisons que ce soit, et puis surtout, pour rebondir sur l'intervention de M. Leroy, je ne suis pas tout à fait convaincu précisément que la position que votre intervention cadre totalement, notamment avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui est en faveur d'une interprétation de plus en plus évolutive des droits fondamentaux, qui tiennent compte des conceptions, si je peux dire, sociales de certains phénomènes, et que limiter finalement les droits fondamentaux dans l'interprétation par rapport à l'intention de leur auteur, et donc à 1830, pour ceux qui concernent la Constitution belge, pourrait s'avérer problématique par rapport à cette jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui s'impose en Belgique, étant entendu de plus l'exemple du chauffeur de la STIP, si je peux dire. Et peut-être un peu caricatural aussi, parce que
non,
la liberté de religion n'est pas non plus une liberté totalement illimitée. Il y a aussi des limites qu'on peut imposer. Ouais. Et qu'on va partir de l'exemple le plus caricatural possible pour lequel je suis en proposant une certaine interprétation. Mais bon, c'est juste quelques réactions.
j'ai vécu
cette. Ce débat est très important. Et
j'ai vécu à l'école. Juste avant le départ pour la Syrie, il y avait des jeunes garçons. 13-14 ans, il était grand comme ça, qui voulait prier, qui voulait arrêter le cours et prier d'un coup à l'autre. Ils avaient apporté un petit tapis et leur djellaba. Et jour après jour, ils venaient dans mon bureau. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas prier? Alors, religieux. Et puis, j'ai donné l'exemple du conducteur du tram. Je dis, mais le conducteur, il ne va pas s'arrêter. Ben oui, madame, il faut qu'il s'arrête. Donc, c'est la réalité.
Le port du voile, l'interdiction du port du voile a été acceptée par la Cour des droits de l'homme dans plusieurs décisions, notamment la Turquie et la Suisse. Hein.
Mm-hmm. La France.
Pour rebondir sur votre réaction, la question que je me pose toujours sur ces deux domaines-là, c'est que si ça concernait par exemple des enfants qui sont nés au Maroc, qui sont venus ici par après, je pourrais encore comprendre ces réactions-là. Mais comment se fait-il que ces réactions viennent notamment des enfants dont les parents sont parfois nés en Belgique et qui sont eux-mêmes nés en Belgique? Donc c'est un peu là pour parler du problème que vous visez, c'est une interrogation vraiment peut-être un peu naïve, mais comment se fait-il que ce problème persiste alors que les enfants qui, le cas échéant, invoquent ces arguments sont nés en Belgique et les parents sont nés en Belgique? Et je compare notamment pour la société plutôt africaine, où précisément ces arguments religieux tendent de plus en plus à s'estomper au fur et à mesure que les enfants sont eux-mêmes nés en Belgique ou les parents sont nés en Belgique. Donc, d'où vient précisément cette différence entre...
Oui. Selon moi, selon les pratiques, c'est une question d'identification, hein, de recherche d'une identité. Vous vous rappelez le triangle que j'ai montré, hein? Donc, ce qu'on explique aux jeunes, et on va très loin là-dessus parce que c'est important, donc c'est un peu de psychologie, justement parce que beaucoup de musulmans font une identification avec la religion. Ils disent, je suis musulman, je porte un voile parce que le voile c'est moi. Sans voile, je suis personne. Donc c'est un problème d'identification. C'est comme l'homme qui roule avec un sape et qui dit, je suis sape. Ce qu'on essaye d'expliquer, c'est aux élèves, et ça, on est aidé par des psychologues là-dessus, que le choix, la religion, c'est un choix personnel, que votre identité, votre personnalité, ça a différentes couches. Et la religion, le choix religieux est une couche. Et la pratique, je dis toujours aux élèves, moi aussi je me protège parce que je porte un foulard. Et le fait de se protéger pour les hommes, de pas être disponible, ça se trouve dans votre tête. Et chaque homme, il voit quand une femme est disponible, oui ou non. Alors, je dis, si tu te comportes de façon convenable et tu te protèges avec un foulard comme ça, et tu es dans la tête, je ne suis pas disponible, il y a Allah qui serait très content. Et c'est un peu, c'est simple, mais après un certain temps, il commence à, oui, elle a raison, oui, je suis, il faut... Mais tous les professeurs ont eu une formation pour, c'est un travail de différentes années pour faire voir aux élèves que ce choix religieux, c'est une partie de l'identité, mais pas l'identité.
Il y a deux interventions souhaitées.
Je voudrais faire deux remarques. La première, c'est la question que vous avez posée sur le Bardin.
Oui.
Je pense qu'il y a effectivement, et c'est très fort, ça manque dans les débats, il manque une sémiologie. Il manque une analyse réellement sémiologique. À partir de quand est-ce qu'un signe devient signe? Mm-hmm. Et il peut être constitué comme signe dans le chef de celui qui porte le signe. Mais même si celui qui porte le signe le porte avec une certaine intention, il est aussi interprété par quelqu'un. Donc voilà. Donc ça, c'est mm-hmm. je pense qu'il faut creuser ça. L'autre point, je voudrais poser la question, Madame Hermans, vous avez dit, au bout de 5 ans, on voit que l'atmosphère a changé, qu'il y a de nouveau de la liberté qu'il n'y avait pas avant, on peut de nouveau faire la gym, etc. Est-ce qu'il y a déjà eu un travail d'évaluation en profondeur? Parce que je pense que c'est là qu'il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. On peut faire beaucoup d'hypothèses, on peut dire que ça a permis d'éloigner, entre guillemets, certains élèves intransigeants, disons les meneurs. Ça a pu protéger certaines majorités silencieuses qui hésitaient, qui n'osaient pas se positionner devant les autres. Mais on peut aussi penser que tout le travail que vous avez fait autour est au moins aussi déterminant dans l'évolution de cette ambiance, et peut-être même que, bon, avec des signes, on l'a préparé dans une bibliothèque, mais peut-être que s'il avait été commencé dans le passé plus tôt, on n'aurait peut-être pas dû en arriver à l'introduction du voile. C'est une question.
Il a été fait plus tôt.
Oui. Pardon?
Le travail que vous avez fait a été fait plus
tôt.
Oui,
le travail. C'est justement parce que j'avais fait tout ce travail que le Conseil d'État a accepté l'interdiction à l'Athénée royale d'Anvers. Parce que j'avais fait des questionnaires, aussi, donc j'étais en même temps dans le comité de la fondation du roi Baudouin, qui a investi, qui a fait une grande recherche sur l'émancipation des musulmans en Belgique, en Flandre, en Wallonie, à Bruxelles. Et c'était un travail fait par l'université de Rabat et de Istanbul, donc tout à fait objectif. Et ils m'ont aidé, donc ces deux universités de la Turquie et du Maroc m'ont aidé à prendre ces décisions parce que tout s'est passé en même temps. J'ai fait le même questionnaire à l'école, j'ai fait le débat à l'école, mais aidé par deux universités étrangères qui m'ont supporté à prendre cette décision à un certain moment, mais c'était un clash gigantesque. Et c'est à ce moment-là, moi j'ai été aidée par une agence de communication. Ces gens-là se sont engagés à former des professeurs, parce que c'était pas facile de tenir là, il y a des protestations des élèves. Il fallait réinstaurer la confiance professeurs, élèves, et dire c'est pas parce que j'interdis un symbole que je suis pas plus votre professeur, que je fais plus le projet pédagogique reste le même. C'était justement pour protéger le projet pédagogique que j'ai fait. que j'ai pris cette décision. Et c'est à cause de ça qu'en 2013, tout au début de départ pour la Syrie, ce que je raconte sur ces jeunes hommes qui venaient dans mon bureau, c'était juste la même chose qu'avec les filles. C'est pour cela que je suis tellement convaincue qu'il y a des organisations qui se trouvent là-dessus. Parce que c'était les mêmes discussions avec les garçons qu'avec les filles. Hein. Mais parce que ça m'arrivait pour la deuxième fois, j'ai dit, ah, mais il se passe quelque chose ici. Et j'ai interdit de prier à l'école. Hein. Et il y a 2 ou 3 semaines par après que la police m'a appelé, qu'il y a un garçon qui était parti. Mais c'était les mêmes discussions sur le fait de pouvoir prier à l'école et le fait de pouvoir porter des voiles. Et ça se voit, c'était comme les jeunes étaient indoctrinés. Hein, parce qu'en 2004-2005, on était ensemble dans la commission, il n'y avait pas de problème. Moi, j'étais sur les barricades pour dire il faut que la liberté, chaque femme doit faire son propre choix. Mais quand le libre choix est menacé, il faut prendre des décisions. C'était la même chose avec les garçons. Il y avait un leader, parce qu'ils choisissent toujours un leader, qui disait à mon professeur d'islam, vous n'êtes pas un bon musulman parce que votre barbe n'est pas coupée de façon musulmane. Et je disais oui. Hein, on discutait de tout. Le pantalon, il était trop long. Et à ce moment-là, il y a des libertés, à la liberté de religion. Et maintenant, on prépare un nouveau questionnaire pour voir donc quel est le résultat maintenant de ce qu'on fait. Il y a une différence. Il y a quelques années, on pouvait faire la discussion et entrer en confrontation. Maintenant, on se tait, il y a le comportement social, donc ça me convainc de nouveau qu'il y a des organisations là derrière qui disent qu'il ne faut pas discuter avec les professeurs. Donc on prend le chemin artistique. Hein. Donc on a un projet artistique où les questions difficiles sur les sciences, l'histoire,
la création
sont traités de façon artistique sans être nommés. Hein? C'est moins menaçant. Mais je suis dans l'école depuis 15 ans et chaque fois il faut inventer quelque chose de nouveau. Mais ce que je trouve, j'ai pris cette décision avant, j'ai consulté 2 ministres d'enseignement pour demander, prenez une décision hein, pour tout le monde. Hein. J'ai pris cette décision pour dire, ah, on verra où je prends la décision, ce sera la Flandre, la Belgique. C'est pas parce que c'était plus tenable à l'école, il fallait que je protège le projet pédagogique de l'enseignement flamand. Et on est 5 ans après, et c'était le même auditeur qu'en 2009. En 2009, c'est la même personne qui a dit en 2009, ça peut pas être une école, qui dit maintenant, il faut que ce soit une décision de l'école et qu'elle preuve, mais c'est un grand travail parce que sur mon ordinateur, il y a un map avec prosélytisme et chaque chose qui arrive à l'école, je la mets dessus. Mais si chaque directeur d'école doit commencer à faire ça, c'est...
Oui, là, vous évoquez l'arrêt du 14 octobre dernier, hein, où effectivement, oui, on a ce basculement.
Oui, on se bascule.
Et on en revient à dire qu'il faut que dans l'école limbourgeoise en question, ouais, il soit démontré que l'interdiction, ouais, va correspondre à la nécessité dans une société démocratique au sens de la Convention européenne des droits de l'homme.
Mais ça ne vaut que pour la Flandre.
Oui, ça ne vaut que pour...
Oui, c'est un arrêt champ flamand, mais...
Puisqu'elle vient d'une circulaire qui n'existe qu'en France.
Oui, et ça concerne les élèves, hein, on est encore...
Le fait qu'on ne prend pas de décision, ça augmente le racisme, parce que les discussions continuent. Il y a la semaine passée, j'ai été à un débat sur la Syrie, à Borgerhout. Il y avait ce fameux Montasser qui m'a dit c'est parce que tu as défendu le voile que les jeunes garçons sont partis pour la Syrie. J'ai dit, enfin, c'est un peu... Hein. Donc il faut qu'on prenne la décision. Également, les partis politiques changent.
Mm-hmm.
Oui.
À partir du moment que Patrick Kean se s'est parti de l'envers, bouf, le Parti socialiste a changé d'opinion.
Monsieur Delrel, vous voulez peut-être réagir.
Oui, si je peux. Moi, j'ai la conviction que la raison pour laquelle le législateur devrait intervenir est précisément en même temps la raison pour laquelle il n'interviendra pas. C'est-à-dire que l'affaire dont nous parlons est le symptôme, et je suis tout à fait d'accord avec le caractère symptomatique plus exactement des signes convictionnels et du foulard en particulier, c'est le symptôme d'une société qui est très clivée, d'une société qui est clivée, et où on a en fait tout. C'est-à-dire que l'exemple que vous disiez, qui n'est pas si caricatural que ça, il y a des choses comme ça qui arrivent, c'est-à-dire des gens qui viennent avec des demandes identitaires extrêmement fortes, de la deuxième, troisième génération, parce que c'est ça qu'il y a de nouveau effectivement aujourd'hui. C'est dû à des tas de phénomènes de notre société, mais que les populations de migration ne suppriment pas leur culture d'origine, mais qu'elles les retravaillent. Et un phénomène comme le patriarcat, par exemple, qui était... quand les Italiens sont arrivés, le patriarcat qui était très fort chez les Italiens ou chez les Polonais, etc., c'est éliminé. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des formes de patriarcat, je mets des gros guillemets parce qu'il y a beaucoup de pratiques derrière cela, qui sont en train de se réinventer chez les gens de la deuxième, troisième génération. Donc on a ça, et d'un autre côté, une intolérance et un racisme de plus en plus grand, qui m'inquiète tout autant, et une des raisons pour laquelle peut-être le législateur a peur d'intervenir, c'est parce que s'il interdit les signes convictionnels, ce ne sera pas partout et en tout lieu, et donc il y en a encore qui ne seront pas contents, il y en a encore qui diront, mais j'ai vu encore un foulard en rue, et la maman elle vient chercher son enfant en foulard, donc ça sera, pour certains ce ne sera jamais assez non plus. Et donc vous avez ces deux extrêmes, j'ai pris mon petit exemple caricatural suivant le vôtre, mais je pense que c'est pas si caricatural que ça, et c'est bien ça le problème. Et c'est la raison pour laquelle les législateurs, parce que en l'occurrence ils doivent quasiment tous intervenir, devraient intervenir pour pacifier, pour mettre des règles, pour mettre un cadre, pour à la fois interdire et envoyer des signaux positifs aussi à la communauté musulmane, etc. Et c'est tout ça qu'on a le sentiment que les législateurs ont fort peur de ça, parce que précisément ils devraient décliver une société qui est clivée, ils ont peur de faire encore plus, d'encore plus cliver, et surtout de se cliver à l'intérieur même de chaque parti, parce que bien peu de partis sont tout à fait à l'aise et tout à fait au clair avec cela. Et je suis tout à fait d'accord maintenant sur ce que vous dites sur la religion, ce n'est pas en tout lieu et en tout temps. Voilà, ça je pense que ça c'est un message qu'il faut faire passer et qui est compliqué à faire passer. Je n'y suis même jamais arrivé au Centre pour l'égalité des chances lui-même, où la plupart des collaborateurs ne comprenaient pas ça, que la religion ce n'est pas en tout lieu et en tout temps. Et pour le bandana, mais voilà, ça c'est aussi le signe du clivage et d'une société extrêmement, clivée, et deuxièmement compliquée et complexe. Il est évident que quelle que soit la décision, la non-décision que l'on prend, de toute façon, on sera face à cette question sémiologique. Et donc, de toute façon, il y aura des zones grises, les barbes, ça commence à partir de quand, les bandanas, etc., etc. Les couleurs, on peut tout imaginer. Et c'est là aussi où, si on est dans une société clivée et énervée, évidemment les gens vont voir un signe partout, vont vouloir en porter partout. Si on est dans une société plus apaisée, les choses se passent mieux. Voilà. Donc il y a aussi, il faut quand même accepter cette idée, bien se dire que si le législateur doit intervenir, mais qu'on est au niveau des symptômes, et ce sont les problèmes de fond qu'il faut régler. Et ça, je pense que les deux exposés celui surtout de Madame Ehrenmans le montre bien.
Et nos deux dernières petites interventions, puisque nous avons dépassé les 19h.
J'ai bien aimé l'intervention de M. lorsqu'il a avec beaucoup de finesse et d'humour a mis le doigt sur une série d'absurdités. Je vais aller, avec humour aussi, si possible, aller encore plus loin. Aux yeux de certaines personnes de cultures étrangères, nous sommes tous ici porteurs de signes convictionnels. Nous sommes tous habillés à l'occidental. Ça paraît absurde, mais c'est exact. Il y a cette différenciation qui est toujours mise en avant. À cela, on peut dire aussi que les autres, c'est-à-dire ceux qui sont visés, ce sont les musulmans. Et alors on dit, certains disent, bien sûr, mais ils doivent, ils sont en Occident, ils doivent absolument s'assimiler. Alors à cela, je dis oui, mais souvenez-vous un petit peu, il n'y a pas si longtemps, quand nous étions les dominateurs du monde autre qu'occidental, imaginez-vous que ces gens, les coloniaux, s'habillent en pagne. Ça n'était même pas pensable. Pourquoi ne s'assimilait-il pas alors que maintenant nous exigeons des autres une assimilation? Je pense que nous, occidentaux, nous avons gardé inconsciemment dans le fond de notre être cet esprit de domination. Je pense que c'est inscrit dans nos gènes. Pour moi, ce n'est pas si vieux non plus, mais quand on lit les textes de Tocqueville ou de Jules Ferry, on se rend compte d'où vient notre inconscient. Les deux noms que j'ai cités, qui sont souvent mis en exergue comme la civilisation, si on lit ces textes, il faut aller vraiment soumettre à la brutalité, je pense que c'est Jules Ferry ou Tocqueville, je ne sais plus, qui conseillait de brûler les récoltes, c'était notamment en Algérie, pour soumettre les populations indigènes, pour les affamer, par exemple. C'était totalement naturel.